Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Jacquemot, qui est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de développement et qui a été ambassadeur et diplomate en Afrique. Et on va avec Pierre Jacquemot parler non seulement des événements actuels en République démocratique du Congo, avec ce processus électoral qui donne lieu à beaucoup d'interprétations, et puis élargir le sujet au processus en cours électoraux. Est-ce que le pouvoir désormais en Afrique se conquiert plus par les urnes que par les armes, comme c'était le cas au XXe siècle. Pierre Jacquemot, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a donc une situation en RDC que l'on pourrait résumer comme cela, et dites-moi si c'est une façon correcte de le faire, à la fois se féliciter parce que pour la première fois, il y a une transition démocratique et le pouvoir, effectivement, a changé de main à la suite d'un processus électoral, mais que en même temps, on a l'impression que c'est un processus électoral qui a été pas tout à fait clair, transparent et honnête, et que celui qui était donné gagnant par beaucoup, notamment par les églises, Martin Fayulu, estime avoir été dépossédé de sa victoire par le clan Kabila.
Oui, alors on peut parler d'une transition démocratique, mais elle n'est que partielle. On peut penser que le précédent président, Kabila, a gardé la main à la faveur de cette élection, qui a pris une allure très très particulière. D'abord, le vainqueur, Félix Tshisekedi, qui était un opposant, n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris avec les autres personnalités de l'opposition, un accord qui avait été passé en novembre, d'avoir qu'un seul candidat de l'opposition, puisque c'est un scrutin à un tour, évidemment c'est décisif, et qui était Martin Fayulu. Lorsqu'il est rentré à Kinshasa, 48 heures après, il a nié sa signature, donc il a déjà cet élément dans le passif, d'avoir un peu trahi, en quelque sorte, un accord qui avait été orchestré par l'ensemble des opposants. La deuxième chose, on a été très, très étonnés pendant la campagne électorale du discours tenu par Tshisekedi sur son prédécesseur, à savoir Kabila, à savoir que celui-ci pourrait bénéficier en quelque sorte d'une rente de situation, sénateur à vie, et qu'on n'irait pas chercher la petite bête dans l'histoire des 17 années de son mandat, alors qu'on sait que lui, son clan, en particulier sa famille, a accumulé un certain nombre de richesses foncières, minières, et que, bon, ces 17 années de pouvoir n'ont pas été totalement indemnes de péripéties dont les Congolais gardent un grand souvenir. Donc, c'est une transition, certes, mais elle est vraiment partielle, d'autant que le nouveau président, Félix Tshisekedi, est obligé de nommer un premier ministre dans le clan Kabila, puisqu'il a perdu l'élection législative, la majorité au Parlement est pro-kabiliste, donc il a une marge de manœuvre qui est en fait très très faible.
Donc on peut craindre en fait une continuité de ce clan qui largement vit sur le pays et qui fait très peu pour le développer. Est-ce que vous pensez que Martin Fayulu, avec l'aide de l'Union africaine, avec l'aide de la communauté internationale et aussi l'aide des églises qui sont très puissantes au RDC, pourrait inverser la situation et finalement prendre le pouvoir, ou est-ce que vous pensez que les dés sont jetés parce que l'armée soutenant le clan Kabila, eh bien les choses vont être ainsi pour les années qui viennent?
Écoutez, je pense qu'à court terme, les dés sont jetés, comme vous dites. D'ailleurs, la communauté internationale a pris acte, y compris la France, hier a pris acte de l'élection de Tshisekedi avec une certaine réticence. L'Union africaine est partagée. Assurément, le Rwanda et l'Angola, qui sont deux pays importants, des pays voisins, ont mal digéré la façon avec laquelle a été conduite la campagne électorale et puis surtout le processus de dépouillement. Probablement, il y a eu un vol de 3 millions de voix au détriment de Fayulu, si on en croit le décompte fait par l'Église catholique, la conférence épiscopale, qui avait 40 000 observateurs, pratiquement oui. Sur chaque, un site sur deux, il y avait un observateur de la conférence épiscopale qui enregistrait les données et qui les transmettait à Kinshasa. Simultanément, il y a eu des fuites sur les données de la commission électorale indépendante. Il y a eu des fuites en pleine session de la Cour constitutionnelle, et ces fuites donnaient également les mêmes chiffres que la conférence épiscopale, une victoire de l'ordre de 60% pour Fayoulou. Donc, pratiquement tout le monde est convaincu qu'il y a eu fuite. Mais les choses sont ainsi. La Cour constitutionnelle a validé, a proclamé Tshisekedi président, et il est très difficile pour les uns et pour les autres, y compris pour la France, qui avait, par la voix de Jean-Yves Le Drian, avait manifesté un grand étonnement à reconnaître ces résultats. Il est très difficile de revenir en arrière. Donc je pense que... Puis vous savez, on est dans un pays où le terreau de la violence est très important, les motifs de violence sont tellement importants que je crois qu'après ces péripéties, des élections qui sont intervenues avec 2 ans de retard, Joseph Kabila est resté 2 ans de plus et quelques semaines, puisqu'il a encore négocié quelques semaines, avant ces élections. Et je pense que beaucoup de Congolais sont très fatigués, et ils aspirent à une certaine paix, une stabilité, même si la situation peut être considérée comme très médiocre.
Qu'est-ce qui poussait le Rwanda à contester ce processus? Kabila a toujours été très utile au Rwanda, et c'est un peu leur homme au départ. Il a été mis en place largement avec l'aide du Rwanda, et il n'a pas fait grand-chose pour s'opposer au pillage de son propre pays par le Rwanda.
Oui, vous avez raison. Alors, la position de beaucoup de chefs d'État africains sur cette affaire, et j'ai une position de personnalité très gênée par la façon dont les choses sont passées, parce qu'eux-mêmes ont bénéficié de processus électoral souvent truqué, de mascarade en quelque sorte électorale, et donc porter un jugement alors qu'ils sont convaincus qu'il y a eu fraude, porter un jugement négatif, c'est très difficile. C'est en particulier le cas de l'Afrique du Sud qui a très vite considéré que l'élection de Tshisekedi était bonne et qu'il ne fallait pas revenir dessus. Pour ce qui concerne le Rwanda, la relation entre le Rwanda et le Congo est une relation extrêmement difficile. Depuis notamment le génocide de 1994, on sait que Kagame a été un peu le mentor à une certaine époque de Kabila, notamment lorsqu'il était avec son père au Rwanda ou en Tanzanie. Et puis par la suite, il l'a aidé jusqu'à la conquête du pouvoir contre Mobutu, le clan Kabila. Et puis les relations étaient K1KA, il y a eu une tentative de prise de pouvoir sur la partie est, en particulier les Kivu, à Goma. J'étais d'ailleurs à Goma quand la ville a failli être prise par une rébellion qui arrivait du Rwanda, le M23. Donc il y a une relation très difficile. Mais dans la position actuelle de Kagame, c'est plutôt une position du président de l'Union africaine, poste qu'il occupe jusqu'au 1er février. Il a voulu annoncé une espèce de position vertueuse valable pour l'ensemble des pays du continent. Je pense que c'est ça qui a dominé dans l'attitude de Kagame.
Alors si on a plutôt une solution de continuité et de Kabila restant un peu le maître, le conducteur sur le siège arrière, étant un peu celui qui agite les ficelles, est-ce que du coup la République démocratique du Congo, une fois encore, ne va pas profiter de ses ressources naturelles? Une fois encore, la population va rester parmi les plus pauvres du monde, et une fois encore, l'indice de développement humain sera l'un des plus faibles dans le monde malgré cela. Donc est-ce que votre diagnostic, votre pronostic, c'est plutôt une continuité dans le pillage des ressources par un petit clan de cet immense pays?
Oui, beaucoup d'indices laisseraient craindre qu'un tel pronostic très très négatif pourrait s'avérer exact. C'est sûr que ce pays n'arrive pas à sortir de l'ornière, n'arrive pas à sortir, à s'engager dans un véritable programme économique viable au bénéfice de la majorité de la population. Il y a encore des postes de pauvreté absolument hallucinantes, notamment à l'intérieur, au cœur du pays, qui pour des raisons logistiques est complètement coupé du monde. Il y a un enclavement du Kasaï, par exemple, où sévit un certain nombre de groupes. Il y a toujours le problème sécuritaire à l'Est. On compte plus d'une centaine de groupes rebelles divers et variés, qui sont en fait des groupes de prédateurs.
C'est des seigneurs de la guerre, il n'y a aucune organisation politique.
Tout à fait, absolument.
C'est des pilleurs armés.
Absolument, mais qui vivent en partie sur les ressources minières du pays et donc qui ont des ramifications internationales, hein, jusque loin en Chine. Et bien évidemment, il faut trouver des exutoires à ces ressources minières pillées. Alors, on peut assister peut-être à des phénomènes un peu plus complexes où certaines régions qui tendraient un peu à s'autonomiser par rapport à ce modèle dominant de prédation, je pense au Katanga, je pense au Bas-Congo, qui pourraient, sur une logique plus régionale, l'une plutôt tirée par l'Afrique du Sud, le Katanga, l'autre plutôt tirée par l'Angola, si l'Angola sort de son côté de l'ornière, je pense au Bas-Congo, pourraient trouver des logiques territoriales de développement endogène sur c'est fort possible du fait de l'incapacité du pouvoir central à maîtriser un pays qui est grand comme quatre fois le nôtre et qui a une population que l'on ne connaît pas. On ne sait pas si elle se présente 10 millions 80 millions d'habitants puisque le dernier recensement date de 1984. Donc, il est possible qu'on assiste à des logiques régionales qui permettent à certains territoires de trouver une certaine autonomie.
Mais ça serait sur la base de sécession, de prolifération étatique. Et le Katanga, il y a un historique en termes de sécession qui est quand même très, très lourd.
Bien sûr. Pas seulement le Katanga, le Kasaï aussi a fait une tentative de sécession.
Il faut dire que les parties les plus riches, qui s'autonomiseraient pour conserver pour eux-mêmes la richesse. Mais c'est là encore la prime, finalement, à l'égoïsme et au pillage. Il n'est pas certain que ça en fasse des régions mieux gérées et plutôt gérées dans l'intérêt de la population.
Oui, enfin, je vous laisse libre de cette interprétation qui peut également être mise en avant sur des problématiques de régionalisation en Europe, évidemment. Oui, c'est certain, la redistribution ne se fait pas de toute façon par le biais, notamment par le biais budgétaire. Le pouvoir central devrait redistribuer 40% des ressources budgétaires de l'État au bénéfice des régions. Ça n'a jamais été fait depuis l'indépendance, ce qui fait qu'il n'y a pas de péréquation au bénéfice des régions les plus pauvres tirées sur les régions les plus riches. Donc la parcellisation, la régionalisation, l'autonomisation est un fait inscrit dans l'histoire longue de ce pays.
Et comment expliquer que l'Église, qui a un tel poids quand même, n'ait pas pu plus peser et finalement capable de déployer 40 000 observateurs sur le résultat, mais incapable de faire valoir son point de vue et d'être finalement spectatrice engagée certes, mais spectatrice des événements politiques?
Oui, alors l'Église n'a pas été aidée par une observation internationale, ce qui avait été le cas dans le passé, parce que cette observation internationale a été interdite par Kabila, hein, et en particulier par l'observation européenne, qui est probablement la plus efficace, en tout cas en Afrique, les missions d'observation donnent d'assez bons résultats. Ce ne serait pas aussi positif en ce qui concerne les missions de l'organisation de la francophonie ou d'autres, ou de l'Union africaine. Et donc, l'Église s'est retrouvée un peu seule dans cette affaire. Et puis, c'est l'Église catholique, la conférence épiscopale, ce ne sont pas toutes les Églises. Comme on sait, les kibanguistes, les protestants sont aussi importants. Et là, on vient de noter qu'il y a une sécession au sein de l'Église catholique, puisque quelques évêques du Kasaï ont déclaré que les résultats étaient bons, étaient normaux. Donc, c'est une affaire qui n'est pas facile à gérer pour l'Église. Et puis enfin, il y a une position d'un certain nombre de leaders politiques de la majorité qui consiste à dire la séparation de l'Église et de l'État fait que l'Église n'a pas à se mêler du décompte électoral.
Alors si on fait une vision plus large, vous rédigez depuis déjà longtemps chaque année le chapitre de l'année stratégique consacré à l'Afrique, vous vous attendez souvent, est-ce que vous avez une vision optimisme des processus électoraux en Afrique ou est-ce qu'on peut, comment peut-on distinguer les success stories et les épisodes qui sont encore malheureux? Est-ce que l'expression libre et volontaire des citoyens en Afrique gagne du terrain?
Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on vote pratiquement partout en Afrique depuis le début des années 90. Hein. Si je mets de côté l'Érythrée, qui est une dictature et deux monarchies un peu folkloriques, le Lesotho et le Swaziland, dans tous les pays africains, on vote. J'ai compté 550 scrutins ces 25 dernières années. Donc l'élection est devenue...
Des scrutins nationaux, vous voulez dire.
Des scrutins nationaux ou des scrutins provinciaux ou communaux. Enfin, donc l'élection est en soi un fait politique reconnu, majeur. Alors, ceci étant, si on juge la qualité de ces élections à l'alternance, produit-elle un changement politique majeur, peuvent-elles? Non. C'est très rare. C'est d'abord un fait essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Le plus connu, c'est le Ghana 2002-2016. C'est le Sénégal, Ablaye Wade, qui perd les élections. C'est
après le Bénin. Avoir lui-même renversé, voilà. Enfin, gagné contre le pouvoir en place.
Voilà, c'est le Bénin qui où on a assisté à une alternance. Et puis la Gambie, très récemment, en 2016, où le potentat qui était installé depuis 25 ans a été battu aux élections. Donc il y a quelques cas vertueux. Il y a d'autres cas où le processus électoral en amont est fait de telle manière, changement de la constitution, etc., que des individus qui sont installés depuis 25, 30, 35 ans, confortent par le truchement de l'élection leur place. Y compris des individus qui ont connu, des chefs d'État qui ont connu, qui ont pris le pouvoir par des coups d'État. Idriss Déby au Tchad, Museveni en Ouganda, d'une certaine manière Sassou Nguesso au Congo. Donc l'élection peut
Kagame.
Être aussi, voilà, exactement, qui peut être, l'élection peut être un moyen de conforter et de blanchir en quelque sorte une conquête du pouvoir qui n'était pas... qui était loin de vertueuse au regard de nos critères. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les élections sont souvent une mascarade. C'est peut-être pas un terme très scientifique, encore qu'on pourrait éventuellement le caractériser en sciences politiques, détournement en amont sur le fichier électoral. On évince un certain nombre de candidats en instaurant un certain nombre de règles. On évince des candidats sur des raisons budgétaires, sur des raisons judiciaires, pardon. Ça a été le cas au Congo, en République démocratique du Congo. On a évincé Jean-Pierre Bemba, qui était probablement le poids lourd de l'opposition, Moïse Katumbi, enfin, etc. C'est également le cas au Sénégal, pays vertueux probablement considéré comme tel, mais où Karim Ouad ne peut pas se présenter, Khalid Fall,
l'ancien maire de Dakar,
l'ancien maire ne peut pas se présenter. Donc il y a, en amont, pendant le processus électoral, il peut y avoir du bourrage d'urne, des achats de voix, enfin des choses qu'on connaît, mais c'est moins là que ça se passe qu'en aval, c'est-à-dire le dépouillement. Alors le dépouillement, c'est un peu difficile de truquer un dépouillement quand il y a une observation, mais c'est dans la transmission. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, Internet était coupé. A été coupé pendant toutes les deux dernières semaines. Donc la transmission des fichiers se fait sur des clés USB. Vous pouvez imaginer ce qui peut arriver sur des clés USB. Et puis ensuite, bon, il y a une consolidation des données qui se fait par une commission électorale. Dans le cas de la République démocratique du Congo, tous les membres avaient été nommés par Kabila. Contestation. Et donc renvoie à la Cour constitutionnelle dont les membres ont été nommés par Kabila. Donc, alors c'est surtout à ce niveau-là que les choses peuvent se passer dans la plus grande opacité. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de pays où on rencontre cette situation que se caractérise
de
mascarade.
C'est ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est une exception congolaise de la RDC ou est-ce que c'est plutôt malheureusement la norme sur le continent africain?
Alors, c'est malheureusement encore la situation majoritaire dans la plupart des pays. Et la chose qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un progrès. Il y a un progrès parce que on ne peut plus faire n'importe quoi dans un certain nombre de pays. Je parlais du Sénégal. Ablaye Wade a perdu les élections, notamment à cause des réseaux sociaux et de mouvements citoyens, de mouvements sociaux. Le plus connu s'appelle Y en a marre. Qui avait mené une campagne dénonçant la corruption du système politique et appelant à une démocratie du quotidien, une démocratie de base. On a vu le même phénomène au Burkina Faso, avec un groupe qui s'appelle le Ballet Citoyen, c'est intéressant comme expression. Il y a des mouvements de ce type en Afrique centrale. Malheureusement, le régime les réprime assez violemment en coupant Internet, en coupant RFI. C'est un indicateur aussi de démocratie. Garde-t-on RFI pendant la période électorale ou coupe-t-on ou, République démocratique du Congo, on coupe et en plus on éjecte l'envoyé spécial du pays. Quand on sait l'importance de RFI, en particulier dans l'Afrique de langue française, enfin francophone, c'est un très bon indicateur du degré de maturité du processus électoral électif, enfin du processus de la démocratie élective, si vous voulez.
Il y a un certain nombre de dirigeants qui s'accrochent au pouvoir depuis plus de 30 ans, dont d'ailleurs la plupart sont des alliés de la France. Alors est-ce que c'est le signe que, au-delà des discours, il y a toujours un vieux fond de France-Afrique, ou est-ce que c'est au contraire marquer l'incapacité de la France à peser sur les processus nationaux ?
Je crois plus à la France-Afrique, hein, pour avoir travaillé 25 ans en Afrique. Je l'ai rencontrée à une époque de ma carrière. Je ne la vois pratiquement plus, sinon de manière tout à fait anecdotique, avec des individus qui sont souvent assez croquignolesques parmi nos compatriotes. Mais c'est une histoire qui est, pour moi en tout cas, finie. D'autant que l'Afrique a élargit considérablement le nombre de ses interlocuteurs, en tout cas sur le champ économique, et que la France est un interlocuteur parmi d'autres. Bien évidemment, une possibilité de dialoguer avec les Chinois, avec les Coréens, avec Singapour, avec les Turcs, avec les Brésiliens, comme avec les autres Européens. Donc la France est une partie parmi d'autres dans l'échiquier politique et économique. Alors, il y a un discours régulier, on l'a entendu de la part de Sarkozy, puis de Hollande, et là récemment, au mois de novembre dernier, de la part de Macron, la France-Afrique, on en sort, je crois qu'on en est sorti. Il reste que, du côté africain, c'est ça qui est important, du côté d'un certain nombre de pays, il y a une attente, notamment de l'opposition, à ce que la France pèse quand même pour plus de démocratie, plus de transparence, plus de redevabilité. Il y en a certains encore qui croient parce qu'ils ont fait leur formation en France, parce qu'ils sont dans le réseau culturel français qui reste encore un des plus dynamiques. C'est un réseau très important. Et il y a une espèce de quête en direction de la France et de ses valeurs qui reste quand même dans l'imaginaire collectif une référence. Et c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
Et vous constatez un développement de la société civile. Est-ce que vous pensez qu'il sera de plus en plus difficile de bourrer les urnes, de plus en plus difficile de s'accrocher au pouvoir et de plus en plus difficile de piller son propre pays?
Oui. Alors il y a un paradoxe, mais peut-être que vous l'avez analysé de votre côté, c'est que plus on arrive à un degré de maturité en matière d'élection, plus il y a d'abstention. C'est-à-dire que je pense que l'attente dans un certain nombre de pays des citoyens vis-à-vis de leurs élites a changé. Au début, c'était les citoyens étaient en déficit d'information face à des individus qui occupaient le pouvoir mais qui étaient relativement inexpérimentés mais dont les mobiles étaient davantage de s'enrichir que de satisfaire les besoins de la population. Donc le jeu économique était un peu celui-là. Maintenant, on a des individus beaucoup plus, des citoyens beaucoup plus formés. Et donc, leur système d'information fait qu'ils se disent, c'est pas trop à attendre du pouvoir central, sinon quelques garanties en termes de stabilité, de sécurité, de justice. Voilà, il y a un minimum que je peux attendre, le reste, j'occupe l'espace et je trouve à le gérer au travers une start-up, au travers un groupement de femmes, au travers une coopérative, au travers une association de jeunes, sportive, culturelle, etc. Peu importe. Et donc il y a une espèce de constitution, de reconstitution, parce qu'il faudrait analyser ce qu'était la société africaine, les sociétés africaines avant les indépendances, une certaine forme de démocratie du quotidien, de citoyenneté, sur un espace qu'on arrive à peu près à gérer, où on peut recréer de la convivialité, de la solidarité, et un certain nombre de valeurs. Et je pense que c'est un peu ça qui est en train de se passer, à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers, dans la relation ville-campagne, hein, parce que la relation est permanente, il n'y a pas une segmentation entre la ville et la campagne. On voit par exemple la reconquête de sécurité alimentaire qui se fait à des échelles régionales, mais vraiment intéressant, j'achète africain, je vends pour le territoire africain. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui parfois transcendent d'ailleurs les pays. Hein. Ça peut se faire à l'espace, sur des espaces régionaux, mais qui sont transfrontaliers, qui peuvent être en plus comment dire, soutenus par les diasporas. Très important, le rôle des diasporas devient plus important, pas seulement par des transferts financiers, mais par des transferts de compétences à leur retour, et qui ont une conception beaucoup plus, voilà, beaucoup plus collective du jeu économique et du jeu politique.
Bien, finalement, on est parti de la mascarade, pour reprendre l'expression, des élections en RDC, pour terminer sur une note plus optimiste. Merci Pierre Jacquemot de ce tour d'horizon.